21 novembre. Après le déjeuner, Madeleine n'a pu cacher son trouble. Roger, elle est arrivée d'un moment à l'autre. Parce que j'étais au courant de cette visite, elle n'éprouvait aucun embarras. Pourtant, j'ai remarqué sur son visage comme une appréhension. La vérité avait beau ne pas être visible, il se pouvait qu'un jour elle éclatât. Il se pouvait qu'un jour, au moment où Roger entrerait chez elle, sa seule présence dévoilât tout ce qu'elle avait fait pour le revoir. Et cela lui était pénible dans ce lieu même où elle vivait avec moi. Un instant, elle pensa à descendre et à faire, devant Roger, qu'elle s'arrangerait à rencontrer, comme si elle avait cru qu'il ne viendrait pas, afin que le soir, en me revoyant, elle pût dire « Cela m'ennuyait tellement de l'attendre que je suis partie et c'est en sortant de la maison que je l'ai rencontrée. » Car elle a ceci de particulier d'être obligée, afin de ne pas mentir, de faire vraiment ce qu'elle va raconter. La perspective d'être mise au pied du mur la rend prudente. Soudain, la femme de chambre annonça l'arrivée de Roger. D'un seul coup, Madeleine cessa d'avoir des scrupules. Pas une seconde, elle n'avait songé à me demander comment il se faisait que je ne sortisse pas. Avant de le faire entrer, elle prit une pause avantageuse en s'asseyant et en lisant d'un air distrait une revue de mode. Quand il parut, elle dit avec l'expression qu'elle savait avoir particulièrement jolie « Vous êtes devenu l'exactitude même, Roger !» Elle regarda seulement après avoir parlé et fut frappée par l'air de plus grande indépendance qu'il semblait avoir. Sans qu'elle sût pourquoi, elle se sentait faite pour prendre avec ce jeune homme des airs de sœur ou de mère. C'était à présent plus fort qu'elle. Alors que, dans sa solitude, ça avait été certainement à un amant qu'elle songeait, brusquement, depuis qu'il se trouvait devant elle, elle se sentait toute changée, sans la moindre envie de flirter. Plus rien de sentimental n'était en elle. On eût dit que les années n'avaient marché que pour elle et que Roger, à ses yeux, était demeuré le jeune homme de jadis. En même temps, une certaine joie l'envahissait de cette évolution qui rendait après coup et malgré elle tout ce qu'elle avait fait inoffensif, tout ce qu'elle avait dit vrai. Il m'apparaissait nettement qu'elle n'éprouvait plus aucune attirance pour lui. « Vous allez prendre une tasse de café, » dit-elle sans marquer la moindre hâte à sortir. Elle le recevait tout à coup avec la fierté d'être mariée, de se montrer dirigeante d'intérieur. À la réception hâtive et peureuse qu'elle avait préparée, succédait une réception inattendue. Il en est ainsi souvent chez ma femme. Se rend-elle, par exemple, au théâtre et rencontre-t-elle à un entr'acte, dans le couloir, une figure de connaissance que, brusquement, le spectacle qu'elle se réjouissait de voir n'existe plus pour elle? Quant à Roger, il avait une attitude assez embarrassée. Il me jetait des regards sournois. Madeleine le séduisait, mais il ne voulait pas le laisser paraître, car certains hommes ressemblent à la plupart des femmes. Par fierté, par amour-propre, ils ne veulent pas montrer qu'ils éprouvent du désir. Ils cachent leurs sentiments jusqu'à la dernière limite. La pudeur de la jeunesse s'est prolongée très avant. Ils ne peuvent se résoudre à dévoiler leur amour et leur faciliterait-on la tâche qu'ils se défendraient encore de toute convoitise. Pourtant, il était venu, et c'était justement ce qui l'embarrassait, exactement comme l'eût été une femme se rendant à un rendez-vous sans raison plausible. Il dit sur un ton bourru « Je suis venu à l'heure parce que les musées ferment à 4 heures. Si on veut voir quelque chose, il faut partir tout de suite. » Ajoutant encore Roger, à qui l'offre de prendre un café avait tout à coup semblé désagréable, parce que l'intimité qu'elle entraînait avait été voulue non pas par lui, mais par une autre personne que lui. Madeleine, de plus en plus changée, répondit « Mais c'est que je n'ai plus envie d'aller au Louvre, mais plus du tout envie !» Obéissant encore à une raison mystérieuse, elle éprouvait un plaisir très vif à paraître capricieuse devant Roger, comme si les années de mariage n'avaient altéré en rien ce qu'il y avait de prime sautier dans son caractère. En effet, elle n'en avait plus envie, et aussi invraisemblable que cela paraisse, elle était fière de me montrer comment elle traitait ce jeune homme. « Alors pourquoi m'avez-vous demandé de venir vous chercher pour aller au Louvre ?» interrogea le jeune homme sèchement, de manière à laisser entendre que ma présence, elle, ne le gênait en rien. parce que j'en avais envie à ce moment-là. On n'a pas le droit d'avoir des envies, Roger. Si je vous priais de revenir demain, j'espère que vous reviendriez. » Depuis qu'elle n'éprouvait plus la moindre attirance pour Roger, Madeleine se sentait si sûre d'elle-même qu'elle s'amusait à jouer avec lui. Comme un enfant à qui on a montré qu'un jouet est inoffensif, petit à petit, touche de plus en plus ce jouet pour finir par le jeter par terre, le piétiner, le casser, à cause de l'obscur besoin de se venger d'une chose qui lui a fait peur à tort, Madeleine, à présent, éprouvait une joie profonde à ce jouet de Roger, sûre qu'elle était, qu'elle ne souffrirait pas au moment où elle s'apercevrait que son pouvoir était illusoire. Et en même temps, elle songeait que c'était en agissant ainsi, en toutes circonstances, que les femmes étaient heureuses. En maltraitant Roger, elle se figurait que toute la vie, elle saurait dominer. Comme ces gens à qui les événements ou le hasard donnent une façon d'être qu'ils n'ont encore jamais eue, mais qu'ils ont désirée, elle se laissait un peu griser par ses paroles, par le rôle qu'elle s'attribuait. Quant à Roger, qui ne l'avait pas revue longuement, il crut qu'elle était devenue ainsi. Une sourde antipathie commençait à l'envahir contre Madeleine. Car il avait encore ce trait de jeune homme qu'il exigeait des femmes d'être gentilles avec lui, comme on l'exige d'un camarade. Cette nouvelle attitude de Madeleine le déroutait. Et cependant qu'il pensait que cela ne durerait pas longtemps ainsi, qu'elle était trop méchante, Madeleine continuait. À la femme de chambre qui mettait du sucre dans les tasses, elle dit avec une certaine ironie, comme si les choses sucrées étaient surtout appréciées par les enfants, « Beaucoup de sucre pour monsieur !»« Mais pas du tout, » répondit d'un trait Roger, « je n'aime pas le sucre. »« Bien, bien, Roger, on ne vous mettra pas de sucre du tout. Comme cela, vous serez content. Je ne suis pas contrariante. » Roger était de plus en plus bougon. Madeleine commençait à l'agacer. Durant toute cette scène, j'étais demeurée immobile, paraissant lire. Que pouvais-je faire d'autre ? Je me serais mêlée à la conversation, que Madeleine eût été furieuse, que je n'aurais pu m'empêcher de me trahir. J'ai assisté en personnage muet à toute cette petite comédie, tellement j'aime Madeleine. À ses yeux, du moment que tout se passait devant moi, je ne pouvais lui faire le moindre reproche. Elle ne faisait rien de mal. Elle semble toujours dire que de tels amusements n'ont rien à voir avec l'amour et que si je m'avisais de lui défendre de voir Roger, elle ferait semblant de me considérer comme un fou. À peine Roger fut-il parti que Madeleine se remit à lire la revue de mode qu'elle avait prise une heure avant, uniquement pour se donner une attitude, comme si le jeune homme l'avait réellement interrompue dans sa lecture. Elle ne pensait à rien et prenait un assez vif plaisir à regarder les modèles. Elle se mit même à chantonner. Mais brusquement, elle posa la revue et se tut. « Mais qu'est-ce que cela signifie ? » me demanda-t-elle brusquement. Elle regarda l'heure. Il était 3 heures. Il y avait à peine 1 heure, elle avait pensé ne rentrer qu'à 6 heures. Et elle était là, devant cette horloge qui marquait 3 heures. Et elle chantonnait et elle lisait une revue ridicule. « Mais que s'est-il passé ? » répéta-t-elle. « Je deviens folle !» Elle sonna la femme de chambre. « Il est vraiment 3 heures ? » demanda-t-elle à nouveau. « Ce n'est pas possible ! Je rêve !» Elle reprit la revue, regarda la couverture, se remit à chantonner comme elle l'avait fait. « Je lisais cette revue » m'annonça-t-elle. « Oui, je lisais cette revue. Enfin, ce n'est guère croyable. » Ce monologue dura quelques minutes. En vérité, il ne distrayait que la surface de son esprit. Elle me faisait songer à un acteur qui récite en pensant à autre chose. Mais elle ne pensait à rien. Ce qu'elle récitait, elle ne l'avait pas appris. Brusquement, je me rendis compte qu'elle reprenait conscience de ceux qui l'entouraient. Elle pensait à Roger. Elle regrettait de n'être pas sortie avec lui. C'est tout de même stupide, devait-elle penser, d'avoir été si diplomate pour en arriver là, alors que j'aurais eu tant de plaisir à sortir avec lui. Si je lui téléphonais, me dit-elle, ce que j'ai fait n'est pas gentil. Enfin, répondis-je, tu ne vas tout de même pas ennuyer ce garçon. Il était visible que son seul désir était à présent de revoir Roger. « Mais il n'est certainement pas rentré, » continua-t-elle pour elle-même, sans tenir compte de ma réponse. « Si Madeleine avait su où le trouver, je suis certain qu'elle serait sortie tout de suite. Elle ne se serait pas trouvée ridicule de le faire, ni inconséquente. Madeleine est de ces femmes que leur amour-propre, bien qu'il soit immense, n'empêche pas de relancer un homme. Elle croit que c'est le bon moyen, si on ne veut pas que celui qu'on aime, laissé libre, tombe amoureux d'une autre. » Cette perspective devait lui être intolérable, au point de lui rendre cette séparation encore plus pénible. Elle ne tenait plus en place. Elle s'apprêta pour sortir. Mais au moment de partir, ce fut plus fort qu'elle de prendre le téléphone et d'appeler Roger, cela sans même se donner la peine de se justifier. Lorsqu'elle fut en communication avec lui, d'une voix douce pour se faire pardonner, pour surtout le revoir tout de suite, tellement elle en avait besoin, elle lui dit « Roger, soyez gentil, venez vite me prendre, nous aurons encore le temps de voir les primitifs. » Mais Roger, qui avait été profondément déçu, ne comprit pas ce qu'il y avait de suppliant dans le ton de Madeleine et, ne voyant pas son visage, crut qu'elle continuait à jouer la femme capricieuse et volontaire. « Il est trop tard, entendis-je, et puis d'ailleurs, ce ne serait pas drôle. Une autre fois, si vous voulez. » « Mais si, Roger, je vous en supplie, faites-moi ce plaisir, il est encore temps. » Il était 3h30. Madeleine, comme beaucoup de femmes, ne croit jamais à la réalité des heures de fermeture quand elle est en retard. Doit-elle, par exemple, faire des emplettes avec moi et vient-elle en retard au rendez-vous, qu'elle m'oblige à courir, qu'elle se hâte comme une folle, tout cela pour arriver devant un rideau baissé. « Je vous affirme qu'il est encore temps, Roger. » « Vous ne pouvez pas me refuser ce plaisir. » Je pense qu'il croyait toujours qu'elle jouait la comédie et, au lieu de voir comme elle était, c'est-à-dire éplorée et presque prête à pleurer, il se la représentait, assise dans une pose alanguie, en train d'essayer sur lui sa séduction. Voyant que rien ne le fléchirait, Madeleine, au moment de le quitter, cela pour me faire accepter tout ce qu'elle avait dit avant, ajouta « Vous avez raison, ce sera pour une autre fois. » À peine eut-elle raccroché qu'elle n'eut plus qu'une hâte, sortir, quitter l'appartement où elle redoutait je ne savais quelle visite ennuyeuse. Elle avait les joues en feu, elle avait besoin d'air, de mouvement. Elle souffrait de ce qui s'était passé et pourtant, pas une seconde, il ne lui vint à l'esprit que la faute retombait sur elle. Quoi qu'il puisse lui arriver, elle n'envisage pas une seconde sa part de responsabilité. De même qu'il ne vient pas à l'idée d'un homme âpre qui commet une faute de se frapper, de même il ne lui venait pas à l'idée de se faire le moindre reproche. Elle était telle qu'elle était. Lorsque sa conscience s'éveillait, cela lui causait simplement un malaise, mais jamais cela ne l'amenait à se sentir coupable. En le faisant, elle eut eu le sentiment de se trahir elle-même. 25 novembre. Il s'est produit aujourd'hui un événement imprévu qui, je dois l'avouer, m'a fait un certain plaisir. Roger a disparu. Il a laissé une lettre sur le bureau de son père dans laquelle il annonçait qu'il allait tirer de la vie son maximum pour, lorsqu'il aurait épuisé toutes les jouissances possibles, se suicider sans regret. Bien qu'absolument rien de mon attitude n'ait laissé percer mon contentement, Madeleine l'a deviné. J'ai remarqué qu'il est des situations pénibles pour d'autres qui, quoi que l'on fasse, vous réjouissent malgré tout. C'est humain, on a beau faire, on est content. Mais j'ai remarqué aussi que ceux qui devinent votre joie l'éprouveraient à votre place, sans quoi, comment l'apercevraient-ils puisque, comme je viens de le dire, on la cache avec un tel soin qu'il est bien difficile de la découvrir. « Tu n'as pas honte, m'a dit Madeleine, de te réjouir d'un pareil malheur ?» « Mais je ne me réjouis pas, ai-je répondu. Tu ne comprends donc pas qu'il va se tuer, et cela ne te touche même pas. Tu as un cœur de pierre. Mais non, ce sont des paroles de jeune homme. » Madeleine était affolée. Mieux que tout ce qui avait précédé, cette lettre me montrait à quel point elle tenait à Roger. À présent, devant l'imminence d'un drame, elle ne songeait même pas à cacher ses sentiments, d'autant plus qu'elle voulait inconsciemment me punir ainsi des avantages que je pourrais en tirer. Moi qui toute ma vie ai voulu être un homme, je dois reconnaître qu'il y a en moi quelque chose qui fait que je me trouve toujours dans la situation désagréable de ceux qui tirent un avantage des peines d'autrui. Quand je m'observe, j'ai d'eux cet air sournois, cette patience, cet effacement dans les batailles, à quoi succède, dans le calme rétabli, le besoin de commander. 26 novembre. J'ai encore revu Curti. Il change de plus en plus. Il me donne brusquement l'impression de vieillir. Le plus naturellement du monde, il m'a raconté une histoire qui lui est arrivée hier, sans se rendre compte combien elle le trahissait. Comme il se trouvait chez des amis, un Espagnol, Guerrera, qui n'avait pas compris son nom au moment des présentations, insinua que la famille Curti avait laissé un mauvais souvenir à Madrid au moment de l'affaire Gomez. Curti demanda des excuses que l'Espagnol, avec force geste, lui donna, tout en déclarant s'être profondément trompé et tout en affirmant, avec une platitude inouïe, que ses paroles avaient dépassé sa pensée. Il ne chercha plus qu'une chose, se mettre en bon terme avec l'offensé, allant jusqu'à l'inviter en Espagne, l'assurant qu'il ne voulait pas le quitter ainsi sur une mauvaise impression, demandant à le revoir, à finir la soirée ensemble, allant même jusqu'à dire qu'il ne regrettait plus son incorrection, puisqu'elle lui avait permis de faire plus ample connaissance de l'homme le plus délicieux qu'il eût rencontré sur son chemin. Mais Curti, qui jadis eut certainement passé sur cette maladresse, ne voulut rien entendre et froidement il se retira. L'origine de ce nouvel état d'esprit n'a pas été exclusivement causée par la maladie qui le mine. Ainsi que me l'a raconté Madeleine, un fait en apparence insignifiant a éveillé une sorte de révolte qui, durant 30 ans, avait existé en lui à son insu et qu'une acceptation profonde du sort avait masqué. Il y a quelques jours, il lut dans les journaux qu'un de ses anciens amis, André Michaud, avait, au cours d'une exploration en Afrique centrale, découvert les restes d'une expédition perdue en 1850. Cet événement, sans grande importance, amena la scène suivante. Au cours d'une petite réception, il dit, en montrant l'entrefilé concernant cette nouvelle, « J'ai bien connu Michaud. C'était un garçon étrange et assez casse-cou. » Or, parmi les invités, se trouvait un certain Léger qui entama une discussion sur Michaud qu'il connaissait également, mais de fraîche date. Et aux yeux de tous, Curti fut complètement éclipsé. Tous les détails qu'il avait donnés, Léger les contredisait. Il sentit alors plus que jamais combien son passé était mort, combien on attachait peu d'importance à ce qu'il pouvait dire, alors qu'on écoutait religieusement Léger qui, l'année précédente, pour affaire, avait été en contact avec Michaud. 29 novembre. Aujourd'hui, bien que cela m'arrive rarement, j'ai éprouvé le besoin de m'épancher, de me confier à un ami. Je me suis rendu à cet effet chez Curti, tellement avant-hier, il m'avait paru abattu, proche de moi. Voilà un homme qui a tout perdu, qui a souffert plus que quiconque de l'ingratitude, de l'indifférence du monde. Voilà un homme qui, sous un air souriant, cache une profonde amertume. Eh bien, cet homme, que je sens par l'esprit si fait pour être mon ami, n'a pas compris ma tristesse. Je lui ai dit tout le mal que je pensais du monde. Aucun écho n'a répondu à mes paroles. Être consolé, c'est avant tout être compris. Mais cette consolation sans compréhension profonde, la compréhension qui se trompe et qu'il faut soi-même diriger, comme elle semble inopérante. Au moment où il me dit « Vous êtes jeune, vous pouvez beaucoup attendre de la vie », à moi qui n'attends rien de la vie, à moi qui n'ai jamais songé une seconde que mon âge pût jouer un rôle dans mes peines, comme j'ai senti que nous étions loin l'un de l'autre. Il pourrait apparaître que, si je souffre tellement, c'est que Madeleine en est la cause. Pas le moins du monde. Et si j'ai une telle pudeur à montrer mes sentiments, c'est que j'ai en horreur d'en faire état. Rien n'est plus lâche que de servir de sa souffrance réelle pour exagérer celle que vous cause un cas particulier. Et maintenant, je crois deviner que, si Curti a si peu compati à mes maux, c'est sans doute qu'il a cru que sa fille en était la cause. L'aurais-je compris avant, que je ne l'en aurais pas dissuadé, car il eût vu certainement dans mes explications de l'indifférence pour Madeleine. Il n'y a qu'en soi-même que l'on puisse trouver une consolation. J'en suis arrivé à présent à appréhender chaque jour nouveau. Plus j'avance, plus j'ai peur de l'inconnu, comme si, à mesure que le temps passe, il s'approchait, au lieu de conserver comme avant ses distances. décembre. Le comte de Bellange a téléphoné qu'il désirait nous voir et Madeleine lui a demandé de venir le soir même, ce qui m'a surpris tellement elle me paraissait préoccupée par le sort de Roger. Dès 6 heures, elle a songé à sa toilette. Elle aime à reparaître devant les gens qui l'ont connue au mieux de sa condition, comme pour leur montrer que leur absence ne l'empêche pas de garder sa beauté, tout au contraire, et peut-être aussi pour qu'il regrette davantage de ne pas avoir cherché à la revoir plus tôt. Les pires ennuis, quand l'heure de se préparer arrive, disparaissent. Les soins que Madeleine donne à sa personne ont une telle importance que, les sacrifier à cause d'une peine, elle ne l'envisage même pas. Comme un homme soucieux et capable, s'il rencontre un ami, d'être gai, de projeter une partie de plaisir dont il sait ne pas pouvoir jouir, Madeleine, dans sa détresse morale, conserve vis-à-vis des étrangers l'apparence d'une femme heureuse. Elle sonna la femme de chambre et ce fut de sa voix habituelle qu'elle lui donna un ordre. La beauté, sa défense. Fardée, habillée, élégante, elle souffre moins, comme si, apprêtée, elle était au-dessus des querelles de ce monde. C'est donc un peu pour se protéger qu'elle apporte tant de soins à sa toilette. C'est au cours de notre séjour à Nice que nous avons fait la connaissance de Bellange, ou plutôt que Madeleine a attiré mon attention sur lui, car je ne sais comment cela s'est fait, mais elle le connaissait déjà. Nous étions assis à la terrasse d'un glacier, lorsque brusquement, elle me dit « Tu regarderas tout à l'heure à ma droite. Tu verras un vieux monsieur, c'est le comte de Bellange. Nous avons fait le voyage de Paris à Nice ensemble. Mais ne regarde pas tout de suite. » Madeleine me parut émue. C'était d'une voix changée qu'elle avait prononcé ces mots. Une seconde, elle avait sans doute pensé à taire qu'elle connaissait cet homme pour ne pas m'indisposer. Mais, parce qu'il arrive souvent que l'on ne peut cacher ce que l'on a fait, même si c'est mal, quand cela intéressera, elle n'avait pu s'empêcher de me montrer le compte, semblable ainsi à la femme la plus amoureuse, ne pouvant taire à celui qu'elle sait jaloux, qu'elle a très bien connu, un de ses amis. Par représailles, je regardai immédiatement dans la direction indiquée, comme ces hommes qui, pour blesser leur femme, se tournent eux-mêmes en ridicule, deviennent insolents, sans penser que la personne avec laquelle ils le sont est peut-être charmante, uniquement pour entraîner avec eux dans le mépris celle de qui ils veulent se venger. « Ce monsieur ?» demandai-je à haute voix en désignant le comte d'un mouvement ostensible. Madeleine ne sut où se cacher. D'un seul coup, le sang lui monta à la tête. « Je te préviens que si tu continues, je m'en vais et tu ne me reverras jamais !» Je m'aperçus que le comte était pour elle une sorte d'idéal. Madeleine veut être seule à comprendre les êtres supérieurs. Au même moment, soit qu'il eût été attiré par notre conversation, soit que ce fût machinalement, le comte se tourna vers nous. Il vit ma femme, mais parut ne pas la reconnaître. Celle-ci, à qui une telle distraction eût dû paraître blessante, lui sourit, avec, malgré elle, cet air des aventurières qui désirent qu'on leur parle, qui s'offrent, ce qui avait quelque chose de profondément pénible chez cette femme, d'habitude si réservée. Ce petit manège n'échappa pas au comte, qui, en réalité, l'avait certainement reconnu. C'est un homme galant, habitué aux femmes, qui sait discerner exactement à quel monde il a affaire, sans pourtant le laisser paraître. Cette façon de le solliciter est justement ce qu'il attend avant de se hasarder. Il fait alors semblant d'ignorer qui sont ses admiratrices et seraient-elles des pucerons qui les traiteraient en grande dame. Il sait ne pas paraître désirer une femme. Le jour de notre arrivée à Nice, il a quitté Madeleine franchement, sans lui demander de rendez-vous, avec indifférence, avec élégance, sans paraître rien espérer. Aussi, aujourd'hui, ne s'est-il pas du tout senti embarrassé vis-à-vis du tiers, en l'occurrence, moi. Il sourit à Madeleine, exactement comme si elle avait été seule, sans le moindre sous-entendu dans son sourire, comme s'il était uniquement heureux de revoir une figure de connaissance. Quant à moi, malgré cet air inoffensif, j'étais furieux car je comprenais le jeu du comte. Par discrétion, la voyant en compagnie d'un homme, il détourna aussitôt la tête. Cette attitude emplit Madeleine d'une plus grande admiration. « Cette génération, me dit-elle à voix basse, avait quand même le culte de la femme. » Par la suite, elle s'appliqua à ne plus regarder le comte. Lorsqu'elle a salué une connaissance, aussi gentiment que cela soit, elle évite soigneusement de rencontrer de nouveau son regard, trouvant que cela fait distinguer d'en rester sur le premier salut. Quant à moi, à chaque instant, je le regardais avec dureté, ce qui fit dire à Madeleine « Comme tu es mal élevée, tu ne sais donc pas qu'on ne regarde pas comme cela les gens ?» Car elle avait alors, de la politesse, une idée aussi vague qu'ont certaines personnes des lois. Les règles de la politesse, c'était quelque chose d'écrit, elle ne savait où ni par qui, mais d'écrit. Ce qui lui dictait sa délicatesse, elle croyait que ce n'était pas celle-ci qui le lui dictait, mais la connaissance qu'elle avait de ses règles. Elle attachait plus d'importance à ce que l'on apprend qu'à ce qui naît naturellement de la sensibilité. L'homme poli était celui qui faisait des choses en apparence impolies, qui pourtant n'étaient faites justement que dans la bonne société. Elle s'appliqua donc à ne pas regarder le comte qui, pas dupe, après avoir glissé quelques regards en vain, avait adopté la même attitude en homme habile qu'il était et peu pressé d'arriver à un résultat. Finalement, il quitta sa place, passa devant notre table. Au même instant, Madeleine leva la tête et ses yeux rencontrèrent ceux du comte. Elle en fut tellement émue qu'elle cacha son trouble dans un autre sourire. Puis, ayant en même temps conscience que ce sourire eût pu être interprété comme une avance, elle rougit. C'est peut-être ce qui gêne le plus Madeleine, l'idée qu'un homme puisse, tout en restant aimable, penser qu'elle désire qu'il lui parle. Le comte se crut autorisé à lui dire « Vous vous plaisez à Nice? N'est-ce pas, madame, que cette ville est ravissante ?» Madeleine était confuse. Elle répondit par monosyllabes. Comme le comte avait un air si bon enfant, si aimable, elle me le présenta. « Asseyez-vous donc, ajouta-t-elle. « Mais je ne voudrais pas vous déranger, dit Bélange en prenant une chaise. Puis, se tournant vers moi, « Monsieur vient peut-être d'arriver, » poursuivit-il avec un sourire profondément sympathique. Il sait paraître s'intéresser à tout le monde, même quand son interlocuteur est un rustre. De même que, lorsque dans un groupe où il se trouve, on fait une plaisanterie sans sel, il doit rire par politesse, avec autant de cœur que s'il avait ri vraiment, de même, en cette circonstance, s'applique-t-il à se mettre au diapason d'un homme mécontent. « Vous venez sans doute de Paris, » continua-t-il. J'ai alors ce quelque chose de ridicule des gens qui, pour la moindre explication, donnent des raisons intimes sans connaître leur interlocuteur. À peine me pose-t-on une question que, par générosité peut-être, je me sens entraîné à dire pourquoi je suis parti, à dire que c'est parce que ma mère malade avait fait jadis un séjour à Nice et qu'elle m'avait vanté cette région. » Pourtant, ce soir-là, je répondis monosyllabiquement pour montrer à Madeleine dans quel mécontentement elle m'avait jeté. Bélange s'était bien aperçu de ma mauvaise humeur et, en habile psychologue, il faisait semblant de ne pas s'en apercevoir car il savait qu'il n'y a pas de plus sûr moyen de plaire aux femmes que de ne pas paraître remarquer ce qu'elles désirent cacher. Ce fut Madeleine qui parla pour moi. « Mais oui, mon mari vient de Paris !» Finalement, le comte se leva. Il sentait qu'il avait séduit Madeleine et qu'il m'avait exaspéré. Toujours avec le même air aimable, comme s'il eût été à 100 lieues de se douter de ce qui s'était passé, il prit congé. Hier soir, lorsque Bélange est arrivé, Madeleine l'a accueilli avec une très grande amabilité, et cela bien qu'elle souffrît terriblement. Malgré la fuite de Roger, le comte demeurait intact dans son esprit. Pas une seconde, il ne lui était venu à l'idée de le recevoir comme elle eût reçu quelqu'un d'autre. Elle ressemble à ces gens qui, lorsque la cause d'un de leurs ennuis vient d'une personne pour laquelle ils ont de l'admiration, gardent pour eux seuls leur peine, eux qui, si cet ennui est causé par un être indifférent, en font une histoire terrible. Le comte planait au-dessus de tout ce qui pouvait lui arriver.